Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel, il est midi et demi ici à Paris.
RFI midi, Anne Contner.
RFI midi, 2 heures ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux sur tous les continents. Et à la une aujourd'hui, le soulagement et l'espoir pour les familles des otages du Hamas. Si le gouvernement israélien approuve bien l'accord de trêve aujourd'hui, plusieurs de ces captifs devraient être libérés dimanche après 15 mois de détention à Gaza. Nous appellerons notre envoyé spécial à Jérusalem dans le journal dans une demi-heure. Juste après, on parlera de la très délicate question de la conscription en Ukraine. La police mène en ce moment des perquisitions pour démanteler des réseaux qui aident certains hommes à fuir le pays afin d'échapper à un enrôlement dans l'armée, et ce alors que l'âge de la conscription fait toujours débat sous la pression des États-Unis. Notre invité est chercheur à l'Institut d'études de stratégie et de défense. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure. Au sommaire également, les réactions européennes aux menaces expansionnistes de Donald Trump, notamment celle du Premier ministre du Groenland, et à la menace sur l'information sur le risque d'ingérence politique que représente le patron de X, Elon Musk. Nous serons en ligne dans quelques minutes avec une journaliste allemande. L'Allemagne où le chancelier dénonce ce matin une menace pour la démocratie de la part d'Elon Musk. Et à l'approche du retour au pouvoir de Donald Trump, on s'interrogera aussi sur l'avenir des relations entre les États-Unis et le Venezuela. Le président américain adoptera-t-il la même ligne ultra dure que pendant son premier mandat ? Pas sûr, car il a besoin de Nicolas Maduro, de sa coopération pour mettre en œuvre son plan d'expulsion massive d'immigrés. On en parle en détail à partir de 13h, temps universel. Voilà pour le programme. Bienvenue. Et on va prendre d'abord la direction de la Russie. 3 avocats de l'opposant décédé Alexei Navalny ont été condamnés ce matin à des peines de prison ferme pour le motif d'extrémisme. Les avocats Alexei Lipster, condamné à 5 ans de détention, Igor Sergounine, condamné à 3 ans et demi, et Vadim Kobzev, 5 ans et demi. Ils avaient été arrêtés en octobre 2023, alors que l'opposant numéro 1 au président russe était encore vivant. Nous sommes en ligne avec notre correspondante à Moscou. Bonjour Anissa Al-Jabri.
Bonjour.
Toutes les organisations liées au mouvement Navalny ont été qualifiées d'extrémistes depuis, et les avocats avec eux, accusés de participation à cette organisation.
Oui, la justice russe leur reproche très exactement d'avoir transmis Alexei Navalny, incarcéré en Russie à partir de janvier 2021, et ce jusqu'à sa mort dans des circonstances obscures, en prison le 16 février dernier, d'avoir transmis des informations lui permettant de, je cite, « planifier, préparer et commettre des crimes extrémistes depuis sa cellule ». Le procès s'est tenu à huis clos, mais certains médias indépendants comme Novaya Gazeta ont réussi à en avoir quelques échos. C'est comme cela et uniquement comme cela que l'on sait qu'à cette accusation, l'avocat Vadim Kobzev a déclaré devant la cour « Nous sommes jugés pour avoir transmis les pensées de Navalny à d'autres personnes ». Le charismatique opposant communiquait sur les réseaux sociaux essentiellement via des messages transmis à ses avocats, messages dans lesquels il dénonçait notamment l'offensive en Ukraine et appelait les Russes à résister. Un des avocats de la défense, Roman Karpinski, a lui expliqué que le dossier était fondé sur des écoutes des réunions en détention d'Alexei Navalny avec ses avocats, soit selon lui une violation du secret professionnel par l'administration pénitentiaire, laquelle avait transmis ses enregistrements aux enquêteurs.
Et ce verdict vaut pour les avocats comme pour le mouvement Navalny, comme pour tous ceux d'ailleurs perçus comme si intéressants d'un peu trop près.
Oui, et ça vaut, Anne, pour la presse, par exemple. Le procès de 4 journalistes russes est en cours. Il est lui aussi à huis clos et ces journalistes sont jugés, eux aussi, pour, je cite, « collaboration avec l'organisation Navalny » et jugés notamment Antonina Favorskaya. Cette photojournaliste couvrait très régulièrement les procès d'Alexei Navalny. C'est elle qui avait tourné le 15 février la toute dernière vidéo le montrant encore en vie. C'était lors d'une audience la veille de sa mort, alors qu'il comparaissait par lien vidéo depuis sa prison de l'Arc. Quant aux avocats, la pression sur eux est désormais massive. Certains ont déjà, ces 2 dernières années, fui le pays pour échapper à une arrestation. D'autres, ce vendredi, évoquent, je cite, « une vengeance de l'État pour avoir défendu Navalny ». D'autres, enfin, un verdict brutal et injuste. Tous savent qu'encore plus qu'avant, il va leur falloir soupeser toutes les conséquences avant de prendre en charge un dossier sensible. Ceux qui le font, encore aujourd'hui, sont de moins en moins nombreux et évitent à tout prix les médias.
L'opposante russe en exil, Yulia Navalny, veuve d'Alexei Navalny, elle affirme sur le réseau social X que ses avocats étaient des prisonniers politiques, qu'ils devraient être libérés immédiatement. Autre réaction, Anissa, celle de l'ONG Amnesty International. Elle critique une tentative honteuse de réduire au silence ceux qui ont osé défendre Alexei Navalny. Et puis le ministre néerlandais des Affaires étrangères parle, lui, d'une nouvelle dégradation dans la situation déjà désastreuse des droits de l'homme en Russie.
RFI, l'Europe à midi.
On revient maintenant sur l'un des sujets qui a beaucoup fait réagir ces derniers jours, c'est l'avenir du Groenland.
Vi vil ikke være danskere, vi vil ikke være amerikanere, vi vil selvfølgelig være grønlændere.
Nous ne voulons pas être Danois ni Américains, nous voulons être Groenlandais. Et bien sûr, c'est notre peuple qui décidera lui-même de son avenir. Les mots sont ceux du Premier ministre du Groenland après des déclarations fracassantes de Donald Trump. Vous vous en souvenez peut-être, le président élu des États-Unis avait affiché son intention de s'emparer de ce territoire de l'Arctique, quitte à utiliser la force si nécessaire. Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
Ça a évidemment beaucoup déplu aux autorités, dont Mutte Hegde, qu'on vient d'entendre. Il dirige le gouvernement du Groenland depuis 2021. Il a 37 ans seulement, mais il n'a clairement pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds.
Oui, le Premier ministre du Groenland qui veut s'émanciper de la tutelle du Danemark, mais certainement pas pour entrer sous la coupe d'un autre pays, même s'il s'agit des États-Unis. Alors, vous l'avez dit, Mutte Hegde est jeune, il est issu d'une famille de pêcheurs, il a lui-même repris l'entreprise de son père avant de se lancer en politique, et sa carrière a été pour le moins foudroyante puisqu'il a remporté les élections en 2021 à l'âge de 34 ans. Cette victoire, il l'a remportée en promettant notamment de stopper un projet de mine d'uranium dans le sud du Groenland. Marc Lantaigne, spécialiste de l'Arctique à l'université de Tromsø en Norvège.
The project had been going on, had been in the planning stages for a good part of 10 years, but
le projet était en cours de planification depuis une bonne dizaine d'années, mais comme il s'inquiétait des conséquences pour l'environnement, il a pris la décision d'y mettre fin. Il est favorable à l'exploitation minière, mais seulement dans des circonstances très contrôlées, et surtout il ne veut pas que cette exploitation mette en danger l'écosystème du Groenland.
Avec son parti de gauche écologiste, Mutte Hegde a battu les socialistes qui ont gouverné le Groenland quasiment sans discontinuer durant les 30 dernières années. Lunettes fines, barbe bien taillée, costume impeccable, il joue la carte de la respectabilité tout en maintenant une certaine proximité avec ses électeurs. L'anthropologue Pia Bayeul, post-doctorante au Fonds Latour, rattachée à Sciences Po.
Au Groenland, il y a une proximité très très forte. D'ailleurs, le ratio, il y a 31 parlementaires pour 56 000 habitants. Donc le ratio est beaucoup plus démocratique que dans la plupart des autres pays. Et on les croise dans la rue, les politiciens. Et du coup, Mutte, il se balade avec sa femme et la poussette, quoi. Donc les gens viennent le voir, ils lui parlent. Enfin voilà. Et puis il est très jeune, donc ça crée un sentiment de proximité quand même. Donc non, je dirais pas qu'il est charismatique, mais il est respecté. Il est considéré comme quelqu'un de sérieux, qui défend les intérêts groenlandais.
Avec une ambition, parvenir à l'indépendance vis-à-vis du Danemark.
Oui, mais attention, pas n'importe comment. Il faut d'abord que le territoire puisse avoir les moyens financiers de cette indépendance. C'est la trajectoire proposée par Mutte Hegde et son parti.
À l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ la moitié du budget national est financée par un subside danois. Il faudrait s'en passer pour être totalement indépendant. Et donc, ce qu'il propose, c'est de développer l'industrie touristique et l'industrie minière pour remplacer l'aide danoise. Mais ça, il va falloir encore 20, 30 ans de développement de ces industries pour que ce soit réaliste. Donc, eux, ils sont sur une indépendance sur le long terme qui soit raisonnée.
Mais ce rythme pourrait être bousculé par les déclarations tonitruantes de Donald Trump.
Oui, au Groenland, on reste encore sous le choc de ses propos du début de l'année, même si le milliardaire américain avait déjà proposé en 2019 de racheter le Groenland. Pour l'instant, Mutte Hegde a répondu avec fermeté à ses déclarations en écartant toute idée de passer sous contrôle américain, mais sans rejeter pour autant les opportunités d'une plus grande coopération avec les États-Unis.
Ce qu'il a expliqué, c'est que le Groenland se trouvait dans une place tendue entre la Russie et les USA, mais c'était aussi une place stratégique et qu'ils allaient essayer de tirer parti de cette localisation de leur territoire. Donc en fait, je trouve que ça dit tout. C'est vraiment tirer son épingle du jeu sans se laisser faire, mais en tirer le meilleur au vu de leurs intérêts industriels à eux.
Voilà, tout cela dans un contexte électoral particulier, puisque des élections doivent avoir lieu au Groenland d'ici au mois d'avril. Mutte Hegedø espère être reconduit à son poste, mais la campagne électorale sera forcément bousculée par ces déclarations de Donald Trump et par le retour à la Maison-Blanche d'un président américain qui estime donc impératif de s'approprier le Groenland.
Mutte Hegedø, notre Européen de la semaine, merci Daniel Valo. Le Groenland donc sous la menace de Donald Trump et toute l'Europe face à l'influence de son meilleur allié, Elon Musk. Le richissime propriétaire de X utilise son réseau pour promouvoir des partis d'extrême droite, comme l'AFD en Allemagne, qui est en pleine campagne électorale. Et nous sommes en ligne pour en parler avec Birgit Holzer. Bonjour.
Oui, bonjour.
Correspondante à Paris de plusieurs journaux allemands, dont le Tagesspiegel. L'Union européenne annonce à l'instant approfondir son enquête contre X après des provocations de Donald Trump. Et puis il y a une autre déclaration ces dernières heures, celle du chancelier Olaf Scholz, qui estime que le soutien d'Elon Musk à l'extrême droite européenne menace la démocratie. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir en Allemagne.
Oui, bien sûr. Elon Musk a déjà insulté plusieurs hommes politiques, dont justement Olaf Scholz. Il a dit que c'est un imbécile responsable pour l'attentat à Magdebourg juste avant Noël, donc sur le marché de Noël. Il a aussi insulté le président Steinmeier et d'autres. Et puis, il a écrit une tribune dans un grand journal allemand où il appelle clairement à voter pour l'AFD comme étant seule lueur d'espoir. Et puis surtout, Elon Musk a aussi... fait une sorte de talk, donc d'entretien sur son réseau X avec Alice Weidel, qui est la candidate de l'extrême droite allemande AfD. Et surtout, ce dernier point est vu comme très problématique parce que ça donne une sorte de promotion pour un parti sur son réseau avec tout ce que ça représente.
Sans aucune vérification d'ailleurs concernant les propos qu'elle a tenus pendant cet entretien. Le tout se passe en pleine campagne électorale. Elle commencera demain pour le chancelier, le sortant, social-démocrate Olaf Scholz. C'est un peu particulier pour lui parce que, a priori, si on en croit les sondages, on sait déjà que ça devrait mal se terminer pour lui.
Oui, alors les sondages devraient vraiment se tromper beaucoup ou changer beaucoup d'ici le 23 février, donc le jour des votes. Après, il faut dire aussi que lors des dernières élections, Olaf Scholz n'était pas le favori pendant très longtemps. Il est devenu les dernières semaines. Du coup, il a déjà l'expérience de quelqu'un qui était surtout plutôt sur la deuxième place et est quand même a fini sur la première. Mais là, effectivement, sur les sondages, son parti SPD est autour de 15-16%, alors que le parti conservateur est à 30 à peu près. Donc c'est vraiment la moitié. Et entre les deux, à 20% à peu près en ce moment, c'est l'AFD, donc l'extrême droite.
Le
donc,
tout dans un climat économique qui est très compliqué, hein, puisque l'Allemagne est en récession pour la deuxième année consécutive.
C'est ça. Donc ça, on vient d'apprendre ça aussi. Bon, c'est pas une surprise. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes liés à... les taux, les prix de l'énergie, et effectivement aussi les taux et aussi le modèle économique avec une forte importance de l'export et une grande concurrence maintenant pour les produits allemands. Donc oui, c'est forcément sur le compte de cette coalition de Olaf Scholz qui était même aussi ministre des Finances avant d'être chancelier sous Angela Merkel.
Donc qui paye aussi le prix de cette situation et ça risque de jouer un rôle dans cette campagne. Merci beaucoup Birgit Holzer d'avoir été en ligne avec nous. On vous emmène en Écosse à présent pour une visite un peu particulière. À Édimbourg, on peut découvrir la ville en suivant des guides en réinsertion, des sans-abri, d'anciens détenus, des toxicomanes qui peuvent ainsi renouer un lien avec la société et se remettre sur pied. Reportage Thomas Harms.
Édimbourg, son château, son architecture, sa vieille ville, ses docks, la capitale de l'Écosse est le deuxième centre financier de Grande-Bretagne, mais elle est également un énorme pôle d'attraction touristique.
Nous avons 8 différents tours, des tours historiques et des tours sur les esprits qui hantent la ville. Oui, à Édimbourg, clairement, soit vous travaillez dans l'administratif, soit vous êtes guide touristique.
Il y a donc des tour sur l'histoire, sur les fantômes, sur Harry Potter. Et oui, le livre a été écrit ici. Et pour ceux qui veulent découvrir une autre face d'Édimbourg, il y a les tours guidées par des anciens sans domicile fixe.
Nous nous trouvons ici au Grass Market, dans la vieille ville, pour cette dame, Maggie Dixon.
Ce tour concocté par Jason s'intéresse aux crimes et châtiments de Édimbourg. Et cela commence avec l'histoire de Maggie, la demi-pendue.
C'est une expérience vraiment différente pour moi. J'ai fait d'autres tours que celui-ci. On me l'a toujours dit quand j'étais plus jeune. Quand des copains venaient en ville, je leur faisais visiter la ville. Ils me disaient déjà que je ferais un bon guide. Ça me fait beaucoup de bien. J'aime rencontrer les touristes et leur raconter où aller. Ils aiment mes histoires et je les vois rentrer chez eux contents pour quelques heures.
Jason a vécu en marge pendant 24 ans sous la dépendance de la méthadone, un opioïde généralement donné en substitution de l'héroïne. D'abord prescrit par un médecin pour ses douleurs aiguës au dos, après une chute, il était apprenti couvreur.
J'ai été sans domicile fixe il y a une vingtaine d'années. J'ai eu de l'aide à l'époque pour retrouver un logement. Mais pendant des années, on me prescrivait de la méthadone. J'ai perdu l'envie de tout. Je vivais dans les brouillards de la méthadone pendant des années.
Jason a entendu parler de Invisible Cities dans le café Saints, un des projets sociaux et de réinsertion que l'on trouve à Édimbourg. Zakia Moulaoui-Guerry est la fondatrice et présidente de cette organisation, une Française arrivée il y a 17 ans dans la capitale écossaise. Sa participation à l'organisation de la Coupe du Monde des Sans-Abri pendant 5 ans lui a donné l'envie de continuer d'aider à réinsérer les sans-domicile fixe.
En France, on avait un magazine avant qui s'appelait Macadam, qui est vendu par des gens qui sont en précarité, et c'est un peu ce modèle-là où je me suis dit, tiens, c'est intéressant de faire travailler les gens, de leur donner cette opportunité de faire des sous, de faire des formations, etc., et d'aller au-delà de ça. Et c'est en ayant le même exemple en Grèce, où le magazine s'appelle Chedia, eux, en fait, étaient en train de penser à l'idée de faire des tours. Et je me suis dit, c'est ça, en fait, qu'il nous faut en Écosse. Il y a tellement de tourisme, etc. Et c'est en passant 2-3 semaines en Grèce avec Chedia que je me suis dit, ok, je vais ramener cette idée-là et essayer de la concrétiser en Écosse. Et ça, c'était il y a 8 ans.
D'abord, son idée attire les adeptes du tourisme solidaire. Mais désormais, les clients sont autant des comités d'entreprise, des associations d'étudiants que des bus de touristes américains.
C'est un mix, je dis toujours, de 3 choses. De l'histoire, du social aussi. On montre des endroits, des cafés dans lesquels qui peuvent être solidaires. On montre les structures qui aident les gens, etc. Et des histoires personnelles. L'idée, c'est de vraiment avoir un tour qui est unique à la personne qui vous le fait pour qu'elle puisse avoir confiance et dire « c'est mon tour ». Et ça, c'est clé pour les gens avec qui on travaille, c'est d'avoir ce sentiment de fierté. Et des fois, on a des tours qui sont beaucoup plus sociaux, des tours qui sont beaucoup plus historiques. Ça dépend de la personne. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment envie de parler de leur passé et tout. On n'est pas là pour leur dire « si, il faut que tu nous racontes toute ta vie ». Absolument pas.
Une fois rencontrés, une partie des gens formés restent guides à temps partiel avec Invisible Cities. D'autres sont aidés pour trouver un emploi à temps plein. Et certains sont même recrutés pour devenir guides pour de grands tours opérateurs.
Récemment, on avait un tour sur la communauté LGBT à Édimbourg parce que c'était l'histoire de ce guide avec lequel on travaillait. Et il a maintenant un job à temps plein dans une autre organisation qui soutient aussi des personnes en précarité. Donc c'est, on a fait la boucle est bouclée, mais on a perdu le tour qui marchait super. Et moi je le dis toujours avec beaucoup de positif, volez nos guides, prenez nos guides et employez-les chez vous, il n'y a pas de problème, c'est le but.
Les tours d'Invisible Cities sont désormais présents dans 6 villes britanniques et ils sont mentionnés dans les guides touristiques comme le Routard ou le Lonely Planet et sur des plateformes hôtelières en ligne. Un projet qui pourrait se développer dans d'autres villes européennes. Thomas Harms, Aberdeen, RFI.
RFI Midi, un monde de tech. Dominique Dezonnet, vous nous parlez aujourd'hui de l'intérêt des agences de presse pour l'intelligence artificielle. 2 exemples. L'agence France Presse qui vient de signer avec le champion européen, le groupe Mistral. Et l'américaine Associated Press qui, elle, a choisi de confier ses articles, photos et vidéos au système Gemini développé par Google.
Oui, le programme IA dénommé le chat, créé par l'entreprise française Mistral, qui est devenu l'un, si ce n'est le seul, fleuron européen de l'intelligence artificielle générative, va désormais accéder au fil d'actualité de l'agence France Presse. L'idée de ce partenariat est que les utilisateurs du robot conversationnel de Mistral puissent recevoir des réponses à leurs requêtes qui seront alors enrichies d'informations factuelles factuel, fiable et vérifié par l'AFP. Concrètement, si la question de l'internaute a trait à l'actualité, le chat puisera alors ses éléments de réponse dans les dépêches que l'agence France Presse envoie habituellement sous forme de texte aux médias, aux institutions ou encore aux entreprises.
Ce chat, il se nourrit des 2300 dépêches quotidiennes de l'AFP qui sont disponibles en 6 langues.
Effectivement, des informations qui sont rédigées en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en allemand et en arabe. Par ailleurs, le programme est autorisé à puiser dans toutes les archives textuelles de l'agence qui ont été publiées depuis 1983, ce qui représente d'ailleurs une source colossale d'informations d'environ 38 millions de dépêches. Toutefois, les photos, les vidéos ou les infographies éditées depuis cette date sont exclues du partenariat afin de ne pas nuire aux médias qui paient au prix fort un abonnement pour ces contenus à haute valeur ajoutée.
Et de son côté, donc, l'agence de presse américaine Associated Press a annoncé, elle, qu'elle fournirait ses contenus d'actualité à l'IA générative Gemini qui est mise au point par Google.
Oui, l'accord a été révélé par un responsable de Google dans une publication de blog. AP fournira désormais un flux d'actualité en temps réel pour aider à la génération de réponses pertinentes dans l'application Gemini, écrit-il. En revanche, ni l'AFP ni AP n'ont dévoilé le montant du contrat ou la durée de cette alliance entre des médias et des firmes de l'IA. Signalons toutefois que les contenus de l'agence France Presse ne serviront absolument pas à entraîner les modèles informatiques de Mistral, ont assuré les deux parties. En revanche, cet accord fournirait à l'agence française un nouveau courant de revenus, se félicite le patron de l'AFP. Mais prudence, le mariage entre des robots conversationnels gérés par IA qui réécrivent en les résumant des dépêches ou des articles de presse sont aussi capables d'hallucinations numériques, quand bien même elles citeraient leurs sources. Le service IA génératif lancé en décembre à grand renfort de publicité au Royaume-Uni par la firme Apple nous le prouve. Le dispositif qui était censé résumer des articles d'actualité de dernière minute sur les dernières version d'iPhone et notamment ceux du groupe média britannique de la BBC a empilé les erreurs et les infox, des hallucinations qui ont jeté un sérieux trouble quant à la fiabilité de l'information que délivrent les générateurs automatiques de textes pilotés par IA.
Dominique Dezonnet. On va parler de football maintenant et de cette prolongation de contrat XXL pour Erling Haaland, l'attaquant norvégien de Manchester City. Contrat prolongé jusqu'en 2034, Frédéric Suteau. Contrat et durée record.
Oui, un nouveau contrat de presque 10 ans. Manchester City publie une photo ce matin d'Erling Haaland avec un maillot où le chiffre est donc l'année 2034 est floqué. 34, c'est aussi l'âge qu'aura le Norvégien dans 10 ans. Erling Haaland est arrivé dans le nord de l'Angleterre en 2022. Son contrat actuel courait jusqu'en 2027. C'est un message fort que Manchester City envoie à tous ses concurrents. Erling Haaland, à l'instar d'un Kylian Mbappé, fait partie des meilleurs attaquants du monde. Un prototype unique d'1m95 qui va vous marquer 40 buts par saison. Il n'est pas à vendre. Et si dans les prochaines années, un club cherchait à s'en approcher, eh bien il lui faudra casser sa tirelire en rachetant toutes ces années de contrat. Après, Anne, au-delà du cas Haaland, il y a une tendance dans le foot européen, comme c'est déjà le cas depuis longtemps aux États-Unis dans d'autres sports, baseball, foot américain ou basket, à aller vers des contrats de plus en plus longs, à l'heure où les clubs sont gérés par des montages financiers toujours plus sophistiqués. Bien, c'est une façon d'amortir, de rentabiliser à long terme un investissement colossal en disant, même si on ne connaît pas dans le détail les clauses qui ont été signées par Erling Haaland, eh bien, il coûterait à Manchester City jusqu'en 2034 quelques 250 millions d'euros.
Frédéric Suteau, merci. Et le Journal des Sports pour plus d'informations dans une vingtaine de minutes maintenant. Une rencontre maintenant avec un écrivain, le français Jean Echenoz. Il publie un nouveau roman, Bristol, aux éditions de Minuit. Et il parle de son héros un peu bancal, à Catherine Fauchon-Toussaint.
Bonjour Jean Echenoz.
Bonjour.
Qui est Bristol ?
C'est un cinéaste de seconde zone, un peu, qui n'a jamais obtenu des succès foudroyants. Et qui essaie, au début de ce livre, qui essaie de monter un projet de film et qui va le réaliser. Et donc, c'est un type un peu solitaire, apparemment. Et ce n'est pas, à proprement parler, un héros. C'est ça qui m'intéressait, parce que les héros Je trouve qu'ils sont un peu plus ennuyeux que les gens en difficulté. Voilà.
Robert Bristol, un réalisateur que nous suivons dans la première partie dans le cadre de l'adaptation d'un roman, un film qu'il va tourner sur le continent africain. On connaît votre goût pour le monde entier, mais est-ce que ce ne serait pas la première fois que vous écrivez un roman qui se déroule en partie sur le continent africain ?
Ah ben oui, c'est la première fois parce que, comme j'aime bien l'idée de romans un peu géographiques, il est arrivé que je balade mes personnages un peu loin. Et puis, je crois que c'était un moment où je me suis dit, au fond, j'ai jamais rien fait. Je ne me suis jamais occupé de l'Afrique, si je puis dire. Et donc, j'ai eu envie de situer ce tournage dans un pays d'Afrique, sud-est africain, d'Afrique australe. Et cela supposait ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire aussi beaucoup de recherches, de documentation, et pour avoir des éléments concrets sur la géographie, sur la morphologie du pays. Et puis, à partir de là, imaginer des choses. Alors j'aurais pu aller faire du repérage. Le repérage, c'est très intéressant parce que ça permet évidemment d'accumuler des notes, etc. Mais en même temps, ça peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on est trop près de la réalité et ça peut restreindre, un peu freiner disons, l'imagination. Donc là, pour ce qui est de ce pays d'Afrique, dont le nom n'est pas cité d'ailleurs, mais par contre, toutes les villes, les lieux qui sont indiqués existent vraiment.
Effectivement, il s'agit du Botswana.
J'avais décidé que ça se passerait au Botswana. Parce que je voulais un pays d'Afrique australe. J'ai cherché un peu, et puis en cherchant des images, des noms de lieux, celui-là m'a paru accueillant pour ma fiction.
Est-ce que vous étiez inspiré par des lieux comme Bob City, Bobonang, Borbirwa, Limpopo?
Ouais, le fait que Bobonang soit appelé par ses habitants Bob City, ça me plaisait déjà pas mal. Et puis il y avait aussi un souvenir précis, mais qui est lié à une lecture d'enfance. C'est des histoires comme ça, de Rudyard Kipling. Une des histoires de Kipling, qui s'appelle, je crois, L'enfant d'éléphant, se déroule au bord du fleuve Limpopo. Donc je me suis emparé de ce souvenir de lecture aussi. Ça faisait une espèce de support imaginaire. Parce que c'est un livre que j'ai beaucoup lu et beaucoup aimé dans ma jeunesse, dans mon enfance.
Qui est-ce qui vous l'avait conseillé, ce livre-là ?
Oh, je crois que c'était ma mère. Ma mère m'a conseillé très tôt des lectures qui étaient précieuses.
Merci beaucoup, Jean Echenoz. Bristol, paru comme tous les précédents aux éditions de Minuit.
Merci.
Et vous pourrez entendre une version longue de cet entretien entre Jean Echenoz et Catherine Fruchon-Toussaint tout à l'heure dans l'émission Littérature sans frontières à partir de 13h30, temps universel.
Yaoundé, 105.5 FM.
Avant cela, à midi et demi, toujours en temps universel, ce sera l'actualité africaine. Avec vous, Nicolas Sûr, bonjour.
Bonjour, Anne.
Et vous nous parlerez tout à l'heure.
Du Cameroun, il y a 2 ans, commençait une affaire qui allait profondément secouer le pays. Le 17 janvier 2023, l'animateur radio Martinez Zogo disparaissait de la circulation. Son corps torturé sera retrouvé 5 jours plus tard. Ses collègues de la radio Amplitude FM lui rendent hommage aujourd'hui sur leur antenne. Nous verrons aussi que le procès des 17 accusés commencé il y a 10 mois reste enlisé dans des questions de procédure.
Merci Nicolas Sûr, à tout à l'heure. La musique pour nous accompagner jusqu'au prochain journal L'Escope et ce titre L'hiver sur tes lèvres, il est à écouter en ce moment dans la playlist RFI.
J'ai gardé avec moi des images en noir et blanc. Dans les tes souviens à toi, tu m'embrassais tout le temps. Été, indien, soleil, couchant. Sur le sable chaud.
RFI Midi. Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
En wolof, en sérère, en peul ou en mandingue, elle chante l'espoir et le vivre ensemble. Elle est l'une des rares femmes dans la communauté des joueurs de Kora. La Sénégalaise Séni Camara sera avec nous et en live à l'occasion de la sortie de son premier album, Yéné.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.